Il est 9h10, nous sommes le vendredi 7 mars et c'est l'heure du débat du jour, Louis Dauphren.
Oui, Pierre-Hugues Dubois, on se retrouve d'ailleurs à partir de 6h30, quant à nous. Hein.
Lundi matin. Je pars en week-end et je vous laisse avec vos débatteurs.
Je vous laisse parce que quand même, demain, ce sera Simon Tatro qui assurera l'antenne comme tous les samedis avec joie. Et puis, on se retrouve naturellement lundi à partir de 6h30.
Je reviendrai d'un semi-marathon, je ne suis pas sûr d'être très en forme.
Wow, courez bien. Hein. Ah oui, ça fait le tour jusqu'au
le tour de Paris, du parc de Vincennes.
Hein.
Il y a un an, j'avais jamais couru de ma vie. Donc, autant vous dire que lundi matin, on essaiera de trouver du dynamisme, Louis Dauphren. Bon, je vous attends dimanche.
Ne vous faites pas une entorse. À lundi.
RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour.
Auquel vous pouvez participer comme chaque matin, direct@rcf.fr et direct@radionotredame.com. Vos messages, vos remarques, vos questions à nos débatteurs ce matin, Clotilde Brossolet et Guillaume Goubert. Guillaume Goubert, ancien responsable du service religieux, directeur de la rédaction du journal La Croix, pardon. Bonjour Guillaume.
Bonjour Louis.
Et Clotilde Brossolet qui est éditrice et puis essayiste, chroniqueur. Bonjour Clotilde.
Bonjour Louis, bonjour à tous.
Allez, les sujets, on va partir très fort sur l'Ukraine et puis on ira ensuite sur quelques sujets ecclésiaux que je vous annoncerai tout à l'heure. Et oui, c'est l'Ukraine qui retient notre attention, avec bien sûr tous les regards des 27 qui sont tournés vers la défense européenne qu'il faut muscler, des budgets considérables. On a pu entendre Emmanuel Macron sur le sujet, lequel s'est aussi exprimé sur Vladimir Poutine, qu'il a qualifié d'impérialiste révisionniste. Alors évidemment, on est dans une période un petit peu complexe aujourd'hui, parce que ça suppose de se repositionner beaucoup par rapport à des schémas antérieurs, en particulier du point de vue de la défense. Les 27 soulignent la nécessité d'accroître substantiellement les dépenses en matière de défense. On le sait déjà, mais on ne sait pas où on va. 800 milliards d'euros, c'est quand même considérable, Clotilde Brossolet.
Oui, alors, si, pour revenir juste sur ce qu'a dit Emmanuel Macron, la manière dont il a qualifié Poutine, il est vrai que Poutine a une visée impérialiste. Alors, je ne suis pas certaine qu'il ait envie, qu'il ait le désir d'envahir l'intégralité de l'Europe, en tout cas, du moins de l'Europe occidentale. En revanche, nous savons tous que Vladimir Poutine vit dans l'imaginaire historique de la Grande Russie et que les frontières actuelles de la Grande Russie sont trop étroites pour lui. Donc, il est certain que... mais en fait, je ne suis pas la première à le dire et je pense que je serai certainement pas la dernière à dire, que derrière la question du front ukrainien se pose certainement la question d'autres fronts qui seraient plus proches de nous. Et je pense que Emmanuel Macron a pas tort aussi quand il dit que même sur notre territoire, évidemment, la France n'est pas en première ligne dans une guerre militaire avec la Russie. Mais on le voit bien, il y a quand même eu des tentatives de la part du gouvernement russe de déstabilisation. Et puis rien que sur les réseaux sociaux, la manière dont la Russie et ses représentants s'expriment à l'égard des nations européennes, occidentales, de l'Europe occidentale,
par exemple,
montre bien. Bah alors là, j'ai regardé ça hier, il y avait quand même Medvedev qui explique, je vais être extrêmement vulgaire, mais je reprends les mots de Medvedev, que Macron devrait la prochaine rencontre revenir avec plusieurs caleçons parce que sinon il allait les salir devant Poutine. Enfin, c'est quand même c'est du niveau caniveau. Je suis désolée de n'embêter les auditeurs avec ça, mais on voit bien qu'il y a une provocation permanente et qui est pas tout à fait gratuite. Voilà. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'Emmanuel Macron a raison. Je ne sais pas s'il a raison de le dire, ça, la diplomatie, ayant aussi beaucoup d'éléments qui se jouent dans la discrétion. Dans quel grand plan ces positions-là d'Emmanuel Macron se situent, je ne sais pas.
Mais on estime que, Guillaume Goubert, les choses se décantent quand même un petit peu avec ce sommet de Bruxelles et ces budgets faramineux qui sont annoncés pour la défense.
Alors, faramineux, je n'ai pas fait le calcul, mais par rapport à la richesse européenne, c'est quand même relatif, parce que l'Union européenne est quand même une des régions les plus riches de la planète. Sinon, la plus riche, donc les choses se décantent, effectivement. Il faut bien comprendre devant quelle révolution culturelle se trouvent les nations de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne est un cadre qui a été créé au départ pour faire la paix entre les nations européennes, ce à quoi elles se sont employées avec un réel succès. Voilà, maintenant il lui faut aujourd'hui apprendre à créer un système de défense commun face à l'extérieur, et on est à ce moment-là, les choses doivent aller vite, parce que le contexte international a évolué très rapidement du fait de l'attitude de la Russie et du fait de la posture de Donald Trump. Ben voilà, c'est ce qu'on est en train de faire.
L'industrie européenne de défense s'est dit prête hein, justement à développer les capacités de l'Europe, soulignant toutefois qu'il lui fallait pour cela recevoir des contrats à long terme, c'est-à-dire que ce ne soit pas un engagement qui soit pris comme ça au gré des circonstances, mais que ce soit réellement un sillage qui soit tracé dans la durée. C'est ça dont on a besoin.
Oui, alors la difficulté là aussi, c'est que on a un pays, une Union européenne avec 27 industries de défense. Enfin, je dis 27, je ne suis pas sûr qu'à Malte ou à Chypre, il y ait véritablement une industrie de défense. Mais en tout cas, dans toutes les grandes nations européennes, il y a des industries de défense qui défendent leurs propres intérêts, qui veulent imposer leurs standards par rapport aux autres, etc. Donc il y a un problème de standardisation, d'homogénéisation de la production d'armement en Europe, qui permettrait aussi de faire des économies importantes en termes de dépenses. Voilà, mais ça c'est très très long à faire, parce que les cultures sont encore extrêmement nationales en matière d'armement.
Et les Ukrainiens se sont plaints d'avoir des munitions de calibres différents, et qu'il fallait chaque fois recharger tel ou tel canon. Les canons de 155, j'avais entendu quelque chose sur les canons de 155, mais qui étaient tous différents. C'est un petit peu comme les aspirateurs, en quelque sorte. Il faut acheter la marque pour avoir tous les produits dérivés, sinon ça ne fonctionne pas. Mais ça, c'est une sorte de luxe commercial qu'on ne peut pas se permettre. Hein. C'est ce que vous dites quand même, Guillaume.
Qu'on ne peut plus se permettre. On a plus le permettre. Il faut dire au passage que ça a été longtemps, excusez-moi Clotilde, ça a été longtemps un gros avantage, ça l'est encore, un gros avantage pour les États-Unis. C'est que du coup, on disait, allemand, je ne vais pas aller acheter des avions français, donc je vais les acheter aux États-Unis. C'est aussi une manière d'essayer de calmer les Américains quand ils nous disent de dépenser plus pour leur défense. Je pense d'ailleurs que du côté des industries d'armement des États-Unis, ils ne doivent pas être extrêmement heureux de la posture de Trump, parce que ça va être plus difficile de vendre des armements en Europe dans les années, les décennies qui viennent.
Clotilde ?
Oui, je pense que, bon, déjà, il n'y a pas que l'Union européenne qui est en jeu, il y a aussi le Royaume-Uni. Et je trouve que c'est assez intéressant de voir aussi que l'Union européenne, les pays de l'Union européenne vont s'accorder avec le Royaume-Uni. Et donc, ça ne passe pas nécessairement par la structure Union européenne, mais aussi par des accords entre pays. Et ça, je trouve que c'est intéressant, parce que ça veut dire que là, il peut y avoir une souplesse aussi d'organisation, et donc une forme d'agilité d'organisation. Le problème, c'est que les choses sont longues, c'est-à-dire des pays comme la Pologne, qui sont armés par les États-Unis en échange. Voilà, il y avait c'était le contrat classique, c'est-à-dire que les États-Unis prenaient en charge une grande partie de la défense polonaise, et en échange, les Polonais achetaient leur armement aux États-Unis. Mais en fait, il faut une transition, et c'est une transition extrêmement longue, pour que chaque pays puisse reprendre, en fait, d'une certaine manière, la souveraineté, si on pourrait parler de souveraineté européenne, de l'armement. Ça va être long. Ça veut dire que pour les industries d'armement aussi, l'investissement est long. Ça veut dire qu'il y a des chaînes de fabrication qui vont devoir évoluer. Donc, en fait, nous sommes dans l'urgence. Et la difficulté, à mon avis, c'est aussi la question de comment on va financer tout ça. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est long. Donc, c'est pas demain que les pays de l'Union européenne vont se défaire de l'armement américain. En tout cas, c'est pas possible. Et seconde chose, c'est que, et même si on voulait le faire à long terme, enfin moyen à long terme, comment on finance ? Alors, l'Allemagne renonce aux 3% sans aucun problème de déficit budgétaire, mais la France, on est tellement au-delà que, par exemple, en France, la question est impossible. Et ce qu'a dit Emmanuel Macron hier, c'est que sur les 800 milliards, il y en avait 15 qui seraient levés certainement par un emprunt européen. Et donc, en fait, c'est encore la question, c'est qu'on va encore devoir passer par l'endettement, parce que de toute façon, nous n'avons pas de marge de manœuvre. Mais le problème, c'est qu'il en faut encore pour emprunter, parce qu'il faut pouvoir emprunter à des taux qui sont à peu près corrects. Et là, on l'a vu aujourd'hui, les taux d'intérêt français dans les dernières 24 heures ont énormément augmenté, en décalage en plus avec la politique, les dernières décisions de la BCE. Donc, moi, je pense que nous sommes en position très difficile. Alors, il y a plusieurs solutions qui sont mises sur le tapis, donc comme un emprunt qui serait proposé aux Français, en tout cas pour la France, à voir. Mais je pense qu'en fait, nous n'avons pas le choix, mais nous n'avons pas non plus une grande marge de manœuvre.
Un message de Thierry qui nous apporte cette précision. On ne peut pas parler d'utiliser le qualificatif fédéral comme voie pour construire une défense de plusieurs pays. Il existe des alliances entre pays nullement fédérés qui ont montré leur efficacité, à commencer par l'Alliance Atlantique à l'époque de la guerre froide, dit-il. Les forces des pays européens appartenant à l'OTAN savent opérer en commun sans préavis, en raison de standards communs qui existent donc déjà. La question de fond, selon lui, est l'organisation de l'Alliance. Pour les Européens qui ne partent pas de rien, cela concerne une industrie de défense, ainsi qu'on le dit, donc il faut la coordonner, la rendre prioritaire sur les importations. Les pays clés, la France, le Royaume-Uni, plus quelques autres, un état-major qui existe déjà à Bruxelles dans le cadre de l'Union européenne, et un organe exécutif à créer de façon pragmatique qui puisse décider rapidement. Voilà la feuille de route un petit peu de cette défense européenne, Guillaume Goubert.
Oui, oui, ça me paraît une analyse très juste. D'ailleurs, moi, à aucun moment, j'ai dit dans notre conversation, le mot fédéralisme n'est venu sur ce sujet. Je sais aussi de souvenirs qui datent de l'époque de la présidence de Jacques Chirac, à quel point, jusqu'à maintenant, les États-Unis ont verrouillé tous les états-majors communs. Donc, si on veut, ça se fera pas dans le cadre de l'OTAN, parce que pour les Américains, l'idée qu'un seul soldat américain ne soit pas sous commandement américain est insupportable. Donc, voilà, il y a énormément de choses à faire évoluer. Je rejoins tout à fait Clotilde sur le fait qu'effectivement les choses se font actuellement avec le Royaume-Uni. C'est une excellente nouvelle. Après, je veux dire, même au-delà des enjeux très préoccupants militaires actuels, c'est le fait que le dialogue est renoué en Europe avec la Grande-Bretagne après toutes ces années perdues du fait du Brexit.
Ce que dit... allez-y,
oui, quand même, si on prend un peu l'histoire récente, la décision de Trump, tous les signaux qu'il a envoyés, et entre autres son attitude au Conseil de sécurité de l'ONU, où il a voté une résolution contre l'Union européenne, et en s'associant à la fois à la Russie, mais aussi à la Corée du Nord et au Venezuela, c'est quand même étonnant que Trump s'associe à ces pays... En fait, elle est peut-être pas si surprenante que ça. Déjà parce que Donald Trump, dans sa campagne, l'avait dit. Donc, la campagne, elle date pas d'aujourd'hui. Elle a quelques mois. Mais déjà, sous Obama, il y avait eu des signes d'un désir américain de désengagement auprès de l'Europe, de la défense européenne. Obama, il avait déjà dit que le centre névralgique des relations diplomatiques avait pour lui basculé dans le Pacifique. Et que c'était, du coup, plutôt la Chine, Russie, qui étaient des lieux stratégiques. Et nous, Européens, on s'est un peu aveuglés. Donc là, on est dans la précipitation. Mais il y a toujours un peu, moi je trouve, en Europe...
On aurait pu anticiper, en fait.
Oui, mais un peu, c'est le côté un peu d'évangélisme. On croit toujours... On veut croire que les bonnes nouvelles, on ne regarde jamais les mauvais signaux. Et je trouve que c'est un peu dommage, parce qu'on a peut-être perdu du temps aussi.
On peut dire, Clotilde, que ce n'est pas la faute de la France, quand même.
Oui, ça, c'est vrai. Parce que
président après président, ce n'est pas uniquement le cas d'Emmanuel Macron. Il y a toujours eu, du côté de la France, un appel assez fort à renforcer les capacités de défense, à acquérir une autonomie en matière de sécurité, etc.
Et Guillaume Goubert, je vous arrête un petit peu quand même avec Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy a quand même beaucoup limité l'outil de défense en France et procédé à des regroupements importants. Et Jacques Chirac avait suspendu le service militaire aussi. Alors, on peut peut-être détacher cette question de... Mais je ne suis pas sûr que les présidents français aient quand même donné
Non, mais ces dernières années, le budget de la défense a augmenté. On peut déjà au moins mettre ça au crédit de nos derniers dirigeants. Et en tout cas d'Emmanuel Macron.
Oui, et puis via la force nucléaire, la France a toujours affirmé une autonomie stratégique importante. Et au moins dans les discours, sinon dans les pratiques, les présidents français successifs ont appelé à un renforcement de l'autonomie militaire, l'autonomie de défense de l'Europe par rapport aux États-Unis.
Et la question de mutualiser l'arme nucléaire, ça vous paraît crédible?
Alors moi je ne suis pas assez spécialiste de cette question pour en avoir un avis très nourri sur la question. Je trouve que c'est pour le moment une question que d'ouvrir un débat. Je trouve que ce débat est intéressant. D'une certaine façon, d'ores et déjà, les pays d'Europe sont sous la protection nucléaire de la France et du Royaume-Uni. Je veux dire, ensuite, c'est les modalités, c'est comment ça fonctionne. Mais dès lors que les États-Unis font un pas en arrière sur la question de la protection de l'Europe, et ben forcément, ceux qui en Europe ont une protection nucléaire deviennent des partenaires plus important pour ceux qui n'ont pas cette arme.
Clotilde Brossolet.
Oui, alors moi, quand je regarde la France et entre autres les deux dernières interventions d'Emmanuel Macron, moi, je me pose la question, en fait. Il monte dans notre pays une petite musique plutôt à droite et extrême, enfin plutôt à l'extrême droite et à l'extrême gauche, d'un président qui serait en grande difficulté et qui jouerait le chef de guerre, justement pour occulter les problèmes internes en France.
Et pour se refaire.
Alors, il est sûr qu'Emmanuel Macron habille facilement les habits du grand dirigeant, qui a une vision sur la globalisation. Ça, c'est sûr qu'il est plutôt doué là-dedans. Mais je suis quand même inquiète parce que s'il faut investir, il va falloir quand même que les Français, à un moment, jouent le jeu. Et en fait, le président français est quand même en grande fragilité. Il n'a pas à l'Assemblée nationale un soutien important. L'Assemblée nationale est assez divisée, même lui est opposée, si on fait la liste de ceux qui ne sont pas d'accord avec les dernières annonces. Et il est aussi devant un pays qui ne fait plus confiance à ses dirigeants. Et en fait, historienne, je me disais, mais on a connu l'Union sacrée en France, mais parce qu'il y avait encore une relation de confiance entre les dirigeants, les gouvernants et le peuple, et la souveraineté populaire. Et là, il y a un tel divorce Je me demande si, finalement, les Français sont capables encore de jouer le jeu d'une union, d'être capable pour certains de se dire, nous allons participer à cet investissement pour l'industrie militaire. Là-dessus, je pense qu'il y a un sujet qui est assez occulté dans les débats et qui, moi, m'interroge.
Faible légitimité alors qu'il s'agit de mobiliser.
Oui.
Que pensez-vous, Guillaume Goubert, du fait que le président russe Vladimir Poutine ait regretté qu'il existe encore des gens qui veulent retourner au temps de Napoléon en oubliant comment ça s'est terminé? C'est ce qu'il a dit. Et puis, le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a même comparé Emmanuel Macron à Hitler et Napoléon, qui ont tous deux voulu conquérir et vaincre la Russie. Une sorte de retour pied-né dans l'histoire.
Oui,
là, évidemment,
Emmanuel
Macron a répondu, mais...
Clotilde évoquait cet aspect des choses tout à l'heure. Je veux dire, la rhétorique russe est d'une violence et d'un extrémisme absolument confondant. Je vois pas bien ce que dans les propos d'Emmanuel Macron, on peut considérer comme une forme d'impérialisme napoléonien. Je pense que les Russes pourraient se souvenir à quel point la France a fait partie, c'était pas le seul, des pays qui ont essayé, il y avait l'Allemagne aussi, et d'autres qui ont essayé jusqu'au bout de convaincre la Russie de ne pas se lancer dans cette aventure ukrainienne. Vous vous souvenez de cette célèbre scène avec Poutine et Macron, chacun à bout d'une table interminable. Non, c'est tout ça n'est absolument pas...
C'est juste un échange verbal.
Oui, et puis c'est un message adressé, je pense, à l'opinion publique russe. Ça n'a aucun sens, ça n'a aucune signification.
Et nous, on se retrouve un petit peu au milieu avec le soutien d'une opinion publique qui est quand même assez timide. Parce que beaucoup de gens, qu'est-ce que vous pensez de la rhétorique qui consiste à dire mais Emmanuel Macron peut rouler des mécaniques devant Vladimir Poutine alors que devant le président algérien, il ne fait pas grand-chose.
Les questions sont pas tout à fait les mêmes. Hein. J'habite pas Nanterre pour rien. C'est-à-dire que la question de l'Algérie, c'est aussi, en période de difficultés internationales, durcir les relations avec l'Algérie, pour Emmanuel Macron, c'est aussi renforcer une possibilité de fragilité auprès de la France avec une déstabilisation algérienne. Et je sais pas si moi je regarde un peu quand même les comptes sur les réseaux sociaux de franco-algériens soutenus par le régime algérien. Voilà, il y a en France des éléments des gens d'origine algérienne qui développent le discours du gouvernement algérien. Donc je pense que Emmanuel Macron cherche à temporiser parce qu'il ne peut pas ouvrir tous les fronts.
Mais pour beaucoup de gens dans l'opinion, c'est plus dangereux le cas de l'agitation venue d'Algériens que celle venue de la Russie.
Oui, mais on ne va quand même pas encore reprendre du retard sur la question de la défense. C'est tout. Si on dit que ce n'est pas la priorité, ça ne le sera jamais. Et voilà, je pense que là, l'attitude américaine nous oblige à prendre ce sujet à bras-le-corps. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les autres.
Guillaume Gobert.
Là aussi, parlons de diplomatie et d'équilibre internationaux. Je veux dire, la France ayant récemment fait, et d'ailleurs et continuant dans cette voie, des pas de rapprochement très importants avec le Maroc, c'est peut-être pas le moment de monter davantage vers les extrêmes avec l'Algérie. Donc il faut trouver une forme de réglage. Ça peut prendre un petit peu de temps. Et il y a aussi sur l'Algérie des propos qui font penser à ceux de Medvedev ou de Lavrov, excusez-moi.
Il y a une rhétorique verbale, en tout cas.
Mais moi, je vous invite à regarder les journaux algériens, les journaux télévisés algériens. C'est très facile de les trouver et sous-titrer en français. C'est en dehors de l'entendement, dans le délire. Le rapport à la vérité, c'est en dehors de l'entendement pour nous.
Et la parole qui se déchaîne. On essaie ici de parler avec la retenue et un minimum d'intelligence. Ce que vous faites, Clotilde Brossolet et Guillaume Goubert, on se retrouve après les infos.